à l'occasion de cette journée européenne de l'art lyrique, au slogan lancé tel un cri du cœur par un Tous à l'opéra, événement relayé depuis ce matin donc par France Musique, nous ne pouvions que présenter cette belle initiative du chant amateur et passionné à l'intérieur d'une maison du plus haut rang. Ainsi, c'est en 1994 que fut créé le chœur du personnel de l'Opéra de Paris, à l'énigmatique patronyme de Neuf Horizons. Mais vous allez savoir le pourquoi de ce Neuf Horizons d'ici quelques minutes. Et à force d'entendre justement, comme les trompettistes de l'Opéra de Paris, à force d'entendre et de côtoyer tous ces gosiers d'or, celles et ceux qui fabriquent ou assurent dans l'ombre le bon déroulement des représentations, ressentis comme un chatouillement dans l'aluette ou un gratouillement des cordes vocales, et se sont mis à chanter en ensemble. Et afin de présenter ces rossignols qui se mettent à chanter justement avant ou après le spectacle, saluons comme il se doit les représentants de ce chœur, à commencer par les dames. Saluons la présence de Geneviève Mercier. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous êtes soprano.
Oui.
Chœur du personnel de l'Opéra de Paris. Et aussi, on va donner votre identité. Vous êtes assistante sociale.
Je suis assistante sociale du personnel.
Du personnel de l'Opéra de Paris. Mmh. Il faut toujours un maître, une directrice, mais surtout une amie. Bien sûr, elle me regarde, elle se dit qu'est-ce qui va se passer. C'est la seule femme qui reste. Françoise Macchiocchi,
je prononce
Macchiocchi, voilà. Première erreur. Ouais. Vous êtes chef de chœur.
Je ne vous pardonnerai pas.
Bah oui, je sais, ouais. Mais bon, surtout pour l'italien. Quand vous êtes chef de chant à l'opéra, justement, vous surveillez la prononciation des chanteurs.
Oui, bien sûr. Férocement.
Voilà, et donc vous dirigez.
Oui,
ce
oui. Je ne suis pas à l'initiative de ce chœur. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a quitté la maison depuis, qui était à la programmation. Geneviève, comment s'appelait-elle? Constance, qui un jour est venue me demander si, après tout, on pouvait créer une chorale d'amateurs au sein de l'Opéra de Paris. J'ai trouvé l'idée très sympa, donc on a commencé à s'avancer dans cette histoire. Mais au départ, c'était pas un chœur, hein, c'était vraiment une toute petite chorale. On était
petit ensemble vocal, oui. Passionné.
On était une vingtaine à tout casser, et nos plus grands exploits, c'était l'arbre de Noël de la maison.
C'est déjà pas mal. Alors justement, vous les entendez rire, il faut présenter les ténors quand même de l'affaire, et non pas les n'importe lesquels. Serge Gaucher, bonjour Serge.
Bonjour.
Alors Serge, vous êtes adjoint de l'agent comptable.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben oui, dites-moi.
Un agent comptable, c'est un comptable public qui est nommé par nos deux ministères de tutelle, qui sont la culture et le budget. Et ce comptable public est chargé de surveiller la bonne exécution des dépenses de l'opéra.
Ouh là là.
Et donc il a une responsabilité personnelle sur ses deniers propres. Et donc je suis son adjoint, je l'assiste.
Alors justement, vous savez tout sur notre invité, Eugen Ostolazza.
Eugen.
Eugen, voilà. Alors là c'est du basque, après l'italien, le basque. Moi j'apprends des choses, c'est parfait. Parce que mon ami Eugen, qui est membre du chœur de Radio France, ténor de son état, nous allons entendre sa voix dans quelques instants, fit partie du chœur de l'Opéra de Paris.
Oui, j'ai passé quelques années des plus belles de ma vie sans aucun problème. Plus je pense à l'opéra, plus je pense que c'était des années extraordinaires. Et maintenant que je vois mes amis de l'opéra, alors là, ça ne fait que renouveler tous ces sentiments.
Les retour aux sources à Radio France, voilà, exactement. Ben, toujours, comme je dis, tous les samedis sont les amis de la musique, c'est le principal. Alors dites-nous tout, qui vient chanter dans votre chœur? Comment travaillez-vous? Le répertoire? Fiche d'identité.
Qui commence?
Qui commence?
Allez-y, allez-y, Geneviève. Lourde responsabilité.
Lourde responsabilité. Donc, le personnel qui veut venir chanter a un panneau d'information. Et qui regarde sur le panneau d'information quand sont les répétitions. Il s'adresse aux personnes qui font partie de la chorale depuis longtemps, c'est-à-dire Serge, moi, Annick, qui s'occupe de la régie. Et donc il nous demande quand sont les répétitions, est-ce qu'on peut venir, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qu'on chante, qu'est-ce qu'on ne chante pas, est-ce qu'on peut venir seulement écouter, qu'est-ce qui se passe. Donc les gens viennent, ils sont présentés à Françoise qui les écoute, qui leur
teste la voix évidemment pour voir dans quel pupitre je vais installer le nouveau ou la nouvelle, même si c'est provisoire parce que j'en ai vu arriver qui étaient des barytons parce que tout le monde est baryton et que je prévoyais bien de faire grimper chez les ténors, ce que j'ai fait au grand dam de certains qui paniquaient et qui disaient mais comment, mais jamais je ne pourrais, mais si etc. donc je fais un premier petit test pour voir si l'oreille répond, si on chante pas autre chose que ce qu'on entend. Un minimum. Je parle beaucoup de technique, évidemment, de la respiration, parce que je sais pas ce que tu en penses, Eugen, mais finalement, tout tient à un diaphragme. bien étalé,
oui,
souple et solide pour soutenir. Il entraîne par synergie un larynx qui plonge dont on se débarrasse le plus vite possible, un pharynx bien ouvert, un voile du palais souple aussi, et là on a, ça y est, plus de passage.
Bien sûr, oui.
Mais je
suis obsédé par le passage parce que je viens de lire.
Voilà, parle-nous de cet ouvrage, Roberto.
Roberto Alagnacchi, qui est l'un de nos idoles, sans compter ce que nous aimons depuis très longtemps. Et il vient de sortir son bouquin dans lequel il parle de son histoire, de sa famille, de ses origines siciliennes. Et il parle de son professeur qui était un monsieur cubain qui s'appelait Rafael Ruiz. Et il parle avec beaucoup d'amour parce que c'est lui qui l'aidait vraiment à se faire et à lui faire cette bonne technique. Il parle tout le temps des notes de passage. Et ça tombe très, très bien parce que je n'étais jamais tombé sur un professeur qui me parlait vraiment comme il parlait des notes de passage.
Simplement.
Et maintenant mon prof,
c'est le livre qui parle.
Ah, qui s'appelle Philippe et que j'aime beaucoup, Philippe Déjeuner, il me parle sans arrêt des notes de passage. Et à mon âge, je fais des progrès.
Mais non, mais non.
Et le fait d'avoir lu le bouquin de Roberto, ça ne pouvait pas tomber mieux. Et je vous recommande à tout le monde de lire ce bouquin-là, qui se lit comme on mange un bon gâteau.
Et alors, votre répertoire, qu'est-ce que vous chantez? Dites-nous.
Alors, je vais reprendre un petit peu quand même sur 94.
L'historique, hein, voilà.
94, tout petit groupe autarcique dans la maison, pour le plaisir, pour se détendre. Donc, une séance sur l'heure du déjeuner. Apprendre à respirer, etc., etc. Et puis chanter des petites pièces quand même de Encine. Des petites pièces galantes, faciles,
Juan,
à cappella.
Juan,
absolument Juan.
Et, je travaille la prononciation, hein, vous avez vu la bibasse.
Encore quelques temps et on vous engage.
au moins.
Et alors donc, l'arbre de Noël, participation à l'arbre de Noël dans la maison, avec des extraits d'ailleurs de Navidad Nuestra, et puis un peu de Criolan, enfin des pièces tout de même, avec un de mes collègues chef de chant au piano, Jean-Bernard d'Artigol, et voilà. Et puis ça flottaille comme ça, une petite dizaine d'années on va dire, avec des hauts et des bas, parce que j'ai dû les lâcher, j'ai dû les quitter. Par ordre de la direction, Monsieur Gall, ayant considéré que je devais passer cadre, c'était une promotion, c'était vu comme une promotion, donc je devais plus être chef de chant, mais cadre artistique, et j'ai pas pu dire non, on lui disait pas non.
On refuse difficilement.
Ce faisant,
une promotion,
il m'a imposé de lâcher les chorales amateurs.
Thomas.
Je ne veux pas que mon adjoint fasse travailler les chorales amateurs. Adios. Et puis j'ai fait l'expérience pour lui faire plaisir, j'ai démissionné, j'ai demandé à revenir sur mon poste de chef de chant, et là j'ai pensé que j'étais libre, donc j'ai repris la chorale en main, et pour abréger, donc en fait on a eu la proposition de chanter le Magnificat de Bach en 2004.
Redoutable partition.
Oui, mais alors ce qu'il y a de bien chez eux, je parle de tout ce
vos
groupe,
ouailles.
C'est qu'ils adorent les challenges, ils adorent les défis, et quand on plante un défi, tout le monde dit « Ouais, on va la voir, etc. » Donc on s'est lancé dans le Magnificat, et je vous avais dit, n'est-ce pas, il y aura un avant Magnificat et un après. J'ai inventé une vocaliste qui tue, qui te fait un diaphragme. Génial, mais j'ai déposé le brevet. Hein,
c'est écrit qu'il faut le vocaliser la main.
Ah, alors les vocalises impec. Donc on a fait un premier Magnificat de Bach avec Dominique Fanal et l'Orchestre Sinfonietta à la Madeleine. Et là évidemment le chœur complètement différent, la technique complètement différente aussi, et on est allé depuis 2004 en fait de défi en défi. Donc après le Magnificat, il y a eu le défi du Via Crucis de Liszt qui est pas une affaire très rigolote, mais qui est difficile. Ensuite on a quand même fait un Requiem de Forêt pour ressembler à tout le monde.
Bah oui.
Uniquement
pour le public aussi.
Et puis on a eu de la part de Monsieur Fanal, donc avec qui on continue de travailler parce qu'il est formidable, c'est un chef d'orchestre généreux et tout, musicien. Et on a eu une demande de messe de Gloria de Puccini. Ça a été le deuxième challenge, donc on a relevé le défi, on a fait une très 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 bonne messe à Saint-Honoré d'Eylau en décembre dernier.
Bon, puis il y a peu de temps,
entre-temps, on avait
j'ai oublié le deuxième, oui, la petite messe de Rossini.
Ah, bah justement, merci, vous savez, à la radio, ça s'appelle Tendre une perche, et ben je la prends bien volontiers.
J'étais en train de sauter au-dessus.
un extrait de la petite messe solennelle, bien sûr, de Rossini, donnée en concert. Vous entendez, les applaudissements sont là, par le chœur Nef Horizon, chœur du personnel de l'Opéra de Paris, piano et direction, Françoise Macchiocchi. Alors, j'ai vu l'image, c'est tiré d'un DVD. Je peux vous assurer, donc, il n'y avait pas de chef de chœur forcément devant. Le chef était en même temps,
au piano.
Il y avait des métacarpes sur le piano. Toutes les têtes regardaient vers le piano.
Les yeux.
Voilà.
Les yeux ont pu.
C'était, et tout le monde, je peux vous assurer, est très sage et discipliné lors de ce concert. Il y a un travail, on le sent.
Tenue professionnelle exigée, hein, pour les entrées, les saluts, les sorties. Il n'y a pas de raison que ce soit moins bien que l'opéra.
Peut-être encore plus professionnel que des chœurs professionnels.
Attention. Je répète, vous faites partie du chœur, non pas de l'opéra, voilà, de Radio France. Chœur de Radio France.
Ex de l'opéra.
Voilà, un ex de l'opéra. Voilà. Non, attention. Alors, Serge, dites-nous, combien de mois de travail afin de donner cette petite messe de Rossini?
3 mois,
oui.
À raison de combien de répétitions?
3 heures par semaine, dans un premier temps. Et puis, comme dans tous nos concerts, on accélère à la fin et on est à 6, 7 heures, 8 heures de répétition. Donc, la semaine, le week-end, le samedi, le dimanche. Effectivement, c'est beaucoup de travail.
Avez-vous le droit de réclamer une partition favorite auprès du chef?
C'est décidé démocratiquement. Et c'est d'un commun accord, bien sûr.
Oui, je propose, on me demande, etc. Et là, tout le monde réclame de revenir au lyrique. Alors on va reprendre. Bon, c'est vrai que la messe de Puccini, c'est quand même de l'opéra, mais je pense que c'est vraiment plus que dans les prévisions de reprendre des chœurs d'opéra. Les scènes de Traviata avec les fameuses...
Libiamont.
Oui, et puis tout ça, enfin revenir. Et puis les soldats de Faust, parce que j'ai maintenant quand même environ 25 hommes qui chantent bien, beaucoup, les basses sont excellentes. Ben, l'agent comptable est dans les basses. On n'avait pas la possibilité d'amener tout le monde.
Ben oui, mais, c'est petit, et puis en plus il y a un instrument de musique, enfin, on va vous en parler dans quelques
temps. Donc c'est vrai que les hommes sont excellents, les ténors sont très très bons, et ça chante, ce que dit le chef d'orchestre par rapport au choral qu'il entend... qui quelquefois n'ont pas assez de technique, donc il n'y a pas assez de puissance, mais là ça chante ça chante beaucoup, donc je crois qu'on peut se permettre maintenant de venir au répertoire d'opéra avec les standards et même autre chose.
Parce alors, qu'il y a... au fait, dites-nous ce sigle Nef Horizon, expliquez.
Alors Nef veut dire nouvel ensemble Favart, et ça c'est pour mon ex rattachement à l'opéra comique, puisque je dirigeais le chœur, et que ce chœur, à la demande de Thierry Fouquet d'ailleurs, on lui avait donné un nom, et il s'était appelé l'ensemble Charles Favart, évidemment, à cause de la salle, on est propriétaire donc du nom, et comme ça peut pas être l'ensemble Charles Favart, c'est devenu le nouvel ensemble Favart, qui est accolé évidemment au grand chœur, le grand chœur étant Horizon, donc le grand chœur regroupe les gens de l'opéra et aussi le chœur que j'ai créé à la
ministère
de la Recherche. Donc on chante ensemble, ce qui nous monte à 80-90, alors que le Nef est un peu plus réduit, donc il y a un peu de Libus Leader, des programmes un petit peu différents.
Et puis bon, c'est facile, mais c'est la Nef sur l'horizon. Quand
c'est la Nef sur l'horizon, l'image est jolie.
Restez avec nous, Serge.
Oui, oui.
Descend le siège en direct.
Chute, la Nef.
Voilà, c'est la Nef qui vient de chuter. Alors on entend, on va écouter ce qui passe là.
Lui et toi, la la la.
Soisic Moreau, des Écoliers à l'Étoile. Alors expliquez-nous, vous avez enregistré cette pièce à une occasion bien précise.
Oui, c'est la commémoration de la déportation des enfants juifs des écoles de Paris. Donc nous chantons tous les ans, enfin on participe à plusieurs mouvements caritatifs à la demande bien sûr, mais on est fidèle vraiment à Madame Shapira qui tous les ans au mois d'avril à la mairie du 18e lit des poèmes et réunit évidemment Monsieur Daniel Vaillant, Monsieur Delanoé pour alors on chante en général le chant des marais, les partisans, des choses comme ça, et Madame Soisic Moreau donc qui est maire adjointe du 11e a composé ce texte et cette musique, et elle nous a donc demandé si on voulait bien la monter, l'interpréter. Alors on l'a chanté comme ça en live, effectivement, à la mairie du 18e, et à la suite de ça, Monsieur Delanoé, enfin toute l'équipe culturelle, a demandé qu'on en fasse un disque. Il y a le texte de Madame Moreau sur ce disque, il y a plusieurs versions de ce, on a fait que les femmes avec les ténors, les femmes avec les ténors et basses et tout. Et c'est distribué dans les écoles pour qu'on n'oublie pas.
Oui, devoir de mémoire, ça c'est important. Bien sûr. Ami Ostolodza, ami basque du Pays basque. On se tutoie parce qu'on se connaît hein, quand même. Oui. On va pas faire les hypocrites à la radio, à vous voyez. Alors que toi qui tu as commencé, j'imagine, dans les chorales basques. Alors là, faut-il préciser que c'est du haut niveau dans le Pays basque, le chant?
Oh, il y en a de tout, mais c'est vrai que nous avons la tradition de chanter un chœur très très vivace. Mais maintenant, il y a plein de chœurs qui se forment. J'ai commencé pour les mélomanes dans le Orfeon de Nostiara, qui est un chœur qui a beaucoup enregistré avec Plasson, par exemple ici en France. Et j'ai commencé chez eux, oui.
C'est après, un très grand chœur qui est sollicité. Cité oui. Par toutes les plus grandes formations symphoniques au monde.
Parce que je suis de Saint-Sébastien, je suis de Nostiara, comme on dit en basque, et c'est l'orphelin de Nostiara, oui, c'est là où j'ai commencé. Et après, je voulais à tout prix faire de la musique ancienne, je voulais à tout prix être contre-ténor, et c'est comme ça que je suis débarqué en France, au CNSM de Lyon. Et après, la vie a fait que je suis resté parmi vous, plus l'amour, beaucoup de choses ont fait que je reste à Paris.
et tu connaissais, parce que tu étais dans les chœurs de l'Opéra de Paris à peu près, enfin oui, quand déjà le chœur était en activité,
bien sûr.
Le chœur du personnel, tu connaissais?
Oui, bien sûr, je les ai entendus plusieurs fois.
Tu allais épier le midi pendant les répétitions, un sandwich à la main, tu ouvrais la porte.
Et j'étais fan, j'aimais m'écouter des concerts qui donnaient hors le cadre de l'Opéra de Paris, bien sûr. Avec Michel Pigmal, et j'ai entendu des concerts comme ça où vous faisiez des choses en commun, je crois.
Ah non,
je me
trompe. Ah, c'est pas du tout.
Je me trompe. Des membres du chœur professionnel qui viennent vous écouter, vous conseiller, avec qui vous pouvez échanger, parler.
C'est-à-dire que je demande dès que c'est possible, dès qu'ils sont libres. Souvent, on a des solistes qui sont dans le chœur de l'Opéra de Paris. Là, à la messe de Gloria de Puccini, on a fait appel à notre ami
Fernando
Velasquez,
qui est un ténor chilien qui a une voix magnifique et qui est un homme très gentil. En plus.
Remarquable. Donc, dès qu'il y a Madame Zao qui est dans les mezzos chez nous et qui a chanté la petite messe de Rossini avec nous. Donc, dès que c'est possible, moi, je vais puiser mes solistes dans ce merveilleux creuset qui est le chœur de l'Opéra. Et c'est vrai qu'Auken et moi, on est très très émus quand on se retrouve, parce qu'on avait, je dirigeais un festival dans le Cotentin, et j'avais demandé les trois ténors. On a fait carrément les trois jeunes ténors de l'Opéra de Paris, dans un château, une orangerie magnifique, et il y avait donc...
Domingo Pavarotti et Monsieur Ostolozza, c'est ça?
Et Auken, voilà. Velasquez et Francisco Simonet, qui est espagnol, et je leur avais demandé des répertoires basques d'un côté, espagnol et Amérique du Sud. Et deuxième partie, bien sûr, comme les autres, Vincero, Vincero à trois voix, Granada, Granada à trois voix. Et je crois que les gens du Cotentin s'en souviennent encore.
On s'est très bien amusé.
On avait Monsieur Vanzo qui était encore vivant à ce moment-là et qui présidait, évidemment.
En face de lui, c'était de la responsabilité.
Oui.
C'est important, cette mixité, c'est-à-dire que des professionnels viennent voir les amateurs pour, reprendre quelquefois un peu de flambeau et de flamme de passion, parce que le métier faisant, pas tous les jours forcément au top, comme l'on dit.
Il faut jamais oublier que si on est arrivé à être professionnel, c'est parce qu'à la base on est amateur, non? C'est parce qu'on aime ce métier-là. Oui. On est amateur du point de vue
amateur
étymologique.
Amateur pour aimer, quoi, bien sûr. Oui. Il faut aimer ce qu'on fait, ça c'est sûr.
Bien sûr, oui, bien
on
sûr.
On fait pas de la musique sans aimer.
un extrait de la symphonie Coulervaux, très exactement la cinquième partie, la mort de Coulervaux, composée par Jean Sibelius, un véritable chef-d'œuvre, tout jeune Jean Sibelius. Un extrait d'un concert donné le 27 janvier dernier, ici, en la maison de Radio France, en auditorium Olivier Messiaen, avec le cœur d'homme de Radio France, placé, oui, quel fait signe j'y étais, c'est moi, placé sous la direction de Hannu Dorianen, l'Orchestre National de France, placé lui sous la direction, enfin le, tout le monde d'ailleurs, Eivind Gullberg Jensen, extraordinaire jeune chef qui va diriger d'ailleurs l'Orchestre National pour les Victoires de la Musique avec Fabien Gabel. Voilà, donc un concert donné le 27 janvier 2007. Et comme disait l'ami Osto Lodza, venez au concert gratuit de Radio France, il y a vraiment de très beaux moments. Alors il peut pas parler... Parce que figurez-vous, il tenait absolument à chanter et à jouer en direct dans cette émission. Et alors, il voulait amener, ben, pas vraiment aller du bel canto, mais plutôt un petit peu quelques pages de son pays à toi. Quel bon public. Eugène ténor du cœur de Radio France en direct pour nous dans un studio grand comme une boîte à chaussures, qui a amené sa harpe celtique, il a fallu braver les taxis parisiens. On va pas raconter l'histoire.
Aucun taxi n'a voulu de moi. Je suis ténor. professionnel, mais je suis harpiste amateur.
Ben
ça,
voilà.
ça, vous le comprenez.
Alors, il faut préciser, dis-nous, c'était quand même des chants traditionnels.
C'était deux chansons dans mes deux langues maternelles, puisque je suis basque de l'autre côté, dont la première chanson était une chanson, c'était une chanson dédicacée à la lune, l'astre du soir. C'est une chanson du Pays basque français. Et la deuxième chanson, c'était une chanson en espagnol séfarade. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure des enfants qui avaient été dans les camps de concentration, des écoles qui avaient été sortis des écoles de Paris. Et là, c'était une chanson des juifs qui ont été renvoyés de l'Espagne à la fin du 15e siècle.
Quelle est la frontière entre ces chants traditionnels et ce qu'on appelle le bel canto?
Alors, quand on écoute les chansons populaires italiennes, vraiment, on comprend que tout vient de là-bas. Hein. On est tous...
L'opéra, il est dans la rue, ou dans les montagnes, ou dans les campagnes?
C'est que la différence que nous avons maintenant entre musique savante et musique populaire, elle est très fraîche, jusqu'à ça fait très peu de temps. On le voit, pour parler toujours du bouquin de Roberto, et on le voit, nous, qui venons du Pays Basque et d'autres régions, jusqu'à ça fait très peu de temps, on a chanté à l'église, dans la rue, dans la maison. Tous les dimanches, on chantait. Et ce hiatus, cette brisure qui existe maintenant, elle est très très fraîche. On a beaucoup plus chanté jusqu'à ça, avec très peu de temps.
Et vous, cœur du personnel de l'Opéra de Paris, nous invité aujourd'hui, vous pouvez chanter partout. Pas uniquement à l'Opéra, bien sûr.
Au contraire.
Pourquoi surtout pas?
Parce qu'à l'Opéra, il y a des professionnels.
Oui, mais comme vous avez pu nous expliquer, vous avez chanté sur la grande scène, l'Opéra Bastille, c'était pour les Noël.
C'est pour l'herbe de Noël, pour nos enfants.
Vous savez que la grande frustration du chœur, c'est, on parlait tout à l'heure du travail, et c'est vrai que produire un spectacle, c'est beaucoup de travail, et il faut un financement pour faire un spectacle. Et vous savez que le chœur amateur n'est pas subventionné, c'est pas l'Opéra de Paris et ce n'est pas Radio France.
Monsieur Mortier ne vient pas vous aider?
Mais non, dommage.
Je pense qu'il écoute, ma pensée se dirige vers lui.
Mais vous comprendrez bien qu'effectivement, il y a une très grande frustration après avoir travaillé autant d'heures, autant de mois pour produire un spectacle, de ne pouvoir le réaliser qu'une fois. Et c'est pour ça que je profiterai peut-être un peu de l'antenne, si vous me le permettez, de solliciter peut-être des mécènes ou des personnes qui voudraient bien, en tous les cas, nous financer. Ça serait le bienvenu.
Bien sûr, il y a toujours des déplacements à payer, des partitions, il faut expliquer.
Nous sommes attendus à la Guadeloupe.
Nous devions aller aux Canaries et ça n'a pas pu se faire pour des raisons financières, puisqu'effectivement, les billets d'avion, ça coûte cher.
Ça coûte trop cher.
Mais sans avoir cette prétention-là d'aller nous exporter.
Déjà sortir du 11e arrondissement parisien, c'est pas mal. 12e.
Sortir de l'Opéra.
Ah pardon, c'est vrai, la frontière. Oui, il y a la frontière.
Sortir ne serait-ce que des murs de l'Opéra de Paris pour pouvoir se produire quelque part.
Mais déjà, oui, effectivement, pouvoir redonner cette messe de Gloria qu'on a fait une seule fois.
Une seule fois.
On aurait bien aimé la redonner au printemps.
Parce qu'on ne fait pas de cadeaux aux amateurs. Vous savez, une église, il faut la louer. Mmh. Il faut un orchestre professionnel. Il faut effectivement payer des droits. Il faut payer le matériel musical. Il faut payer des solistes. Il faut payer toute l'organisation. Et tout ça, c'est un coût relativement élevé. Et vous connaissez la technique des chœurs amateurs pour financer en fait leur concert. C'est de solliciter le chœur pour qu'il soit les vendeurs en fait de la billetterie. Et on demande à chaque choriste d'essayer de vendre 3-4 places autour de lui, de façon à pouvoir, effectivement, lorsque vous êtes 70, ça vous fait un petit budget. Mmh. Et là, effectivement, vous pouvez le produire. Simplement, vous pouvez le faire une seule fois. Vous ne pouvez pas solliciter comme ça le chœur sans arrêt. Et donc, nous sommes toujours frustrés.
Bon, et bien, grande ce monde, vous avez entendu. Ouvrez votre bourse.
Merci.
quelques extraits du O Magnum Mysterium de Peter Maxwell Davis, donné le 17 décembre dernier par le chœur de Radio France, placé Radio France et non pas Flance, placé sous la direction de Michel Tranchant qui devait venir ce soir et qui ne pouvait pour raison, on va dire, familiale. Voilà. On pense à lui, on l'embrasse très très fort, n'est-ce pas?
Très fort, bien sûr.
Ouais, tout le cœur de Radio France l'embrasse et pense à lui.
Complètement. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ce concert de Noël avec lui.
C'était très sympa. Oui, c'était la première fois que je voyais Michel Tranchant danser devant le cœur de Radio France. Et puis, je voyais ce dandiner aussi les choristes.
C'était chouette ce concert. Oh, quel bonheur. Ouais. On a bien commencé les fêtes.
Exactement. C'est un basse qui vous le dit, vous pouvez le croire. Ah, ah justement, parlons de ce disque. Les Contes d'Axéry, le Renard, Pays Basque.
Oui, les Contes d'Axéry, le Renard.
Art Musique Édition.
Oui, c'est une maison qui fait produit des disques pour enfants, ici à Paris. Et ça m'est venu comme un cadeau de la vie, moi qui ne suis pas conteur. Et je me suis amusé à recueillir les disques, à recueillir les contes, à les traduire au français avec l'aide de Tania, la productrice. Et on a fait les contes. Et j'ai chanté, j'ai joué de l'harpe, j'ai joué du tchistou. C'était un bonheur de le faire.
Donc, Eviken Ostolatsa, Les Contes d'Axéry, le Renard, Axéry.
Axéry,
voilà, c'est le Renard.
Je me permets de dire ARB Music Productions.
Oui, et alors là, bravo. Merci beaucoup, amis représentants du chœur du personnel de l'Opéra de Paris, Françoise Macchiocchi, Geneviève Mercier, Serge Gaucher. Prochain concert
La 9e. Neuvième de Beethoven, Andy Freud en tout cas, et début avril.
Il faut surveiller sur votre site.
Site internet, ce sont leschoristes.fr. Si je me trompe pas.
Leschoristes.free.fr.
Les choristes, voilà.
Leschoristes.free.fr.
Sinon, il y a l'adresse sur notre site internet de l'émission Kiosque des Amateurs. Le week-end, le cœur de Radio France.
Prochain concert de Radio France à la salle Pleyel, c'est la deuxième symphonie de Mahler.
Oula, dites donc, Berliner Philharmoniker sans Simon Rattle.
Le 4 mars.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Grand merci à Frédéric Potry, Martin Delafosse pour la prise de son, Frédéric Aubineau, une émission préparée par Françoise Montaille, réalisée par Fabien Fleurat. France Musique 17h58 passé, un peu de réclame.